parler des Jeux Olympiques sur RFI dans quelques secondes avec 8 milliards de voisins. Il est midi 10 à Paris.
Merci RFI pour ce journal. Midi 10 à Bordeaux également. Vous écoutez Le Plat de Résistance sur la clé des ondes. Aujourd'hui, on parlera des mobilisations en cours à l'université Bordeaux-Montaigne pour réclamer une meilleure politique de gestion des violences sexistes et sexuelles. Et à 13h, le guide du Bordeaux colonial s'intéresse à un sujet largement passé sous les radars, le racisme contre les personnes d'origine asiatique, en particulier dans le contexte d'épidémie de Covid-19. On commence avec quelques infos. À Oléron, Airbnb vient d'être condamné hier à payer une amende de 1,3 million d'euros. C'est le tribunal de La Rochelle qui a condamné la plateforme en raison de manquements liés à la collecte de la taxe de séjour en 2022. La multinationale a déjà été condamnée en 2021 à une amende de 30 000 euros pour des faits similaires. L'avocat de la communauté de communes d'Oléron dénonce sur France Bleu Gironde, je cite, Ce jugement confirme et amplifie la première décision favorable obtenue par le même tribunal et encourage notre collectivité à poursuivre les actions engagées contre Booking.com et Le Bon Coin. Personne ne devrait être au-dessus des lois. Cette condamnation historique, je cite selon la collectivité, est-elle assortie d'une mesure d'exécution provisoire ? Et la plateforme Airbnb, elle, parle de décisions disproportionnées et contradictoires concernant le montant de l'amende. Airbnb précise enfin que, la municipalité d'Oléron a engagé ce litige après que nous ayons réglé l'ensemble des sommes dues avec intérêt de retard. Nous avons identifié et réglé le problème technique qui était à l'origine de cette erreur de collecte. Scandale de pédophilie en Nouvelle-Aquitaine dans le Béarn. 40 nouvelles plaintes visant l'établissement catholique Notre-Dame de Bétarame vont être déposées la semaine prochaine auprès du procureur de la République de Pau. Ces 40 plaintes s'ajoutent aux 33 autres déjà déposées, portant à 73 le nombre de plaintes pour violences et violences sexuelles sur mineurs. C'est Alain Esquer, l'une des victimes de cette institution, qui a lancé l'alerte. Il rapporte, je cite, que les enfants concernés ont entre 8 ans et 14 ans. Ils ont vécu de véritables agressions sexuelles, des fellations et des pénétrations anales. Plus de 30 ans après certains faits, Alain Esquer a œuvré au recueil de témoignages pour que la parole se libère. Et ce dernier s'exprimait sur France Bleu Gironde, il dit « L'affaire de Bétarame ne fait que commencer. Elle va montrer une monstruosité que nous avions au fin fond de notre Béarn, l'une des histoires de pédophilie les plus importantes de France des 50 dernières années. » Et au Brésil, Clinton Lima, ancien sélectionneur national et entraîneur du Santos Club, le club de football de Sao Paulo, est accusé par 19 joueuses d'harcèlement moral et sexuel. Ce 13 avril, avant un match, les joueuses de Corinthians ont dénoncé l'omerta dans le football, dans le stade de Villa Belmiro. Une main plaquée sur la bouche ou sur l'oreille pendant que résonne l'hymne national brésilien. L'accusé qui avait dû démissionner en septembre 2023 suite à ces dénonciations. L'entraîneur de 49 ans clame son innocence contre ses 19 témoignages et le club affirme que les accusations étaient, je cite, « faibles et fragiles ». Les joueuses de l'équipe se disent indignées de son retour et reprochent au club d'avoir bafoué l'enquête. Tamires Diaz, joueuse au Corinthians, s'exprime au micro de Sport TV. Elle déclare, je cite, « Lorsque vous portez ce maillot, vous devez savoir ce que vous portez. Nous devons mettre un terme à tout cela, à la discrimination, au harcèlement, à la violence contre les femmes, au racisme, à tant de choses que nous avions soulevées, mises à l'ordre du jour dans le football et le sport. » Et finalement, suite à ces dénonciations publiques, l'entraîneur de foot a démissionné ce 13 avril. Midi 14 sur la clé des ondes. Et on commence notre sujet de jour. Depuis plusieurs mois, des mobilisations ont lieu à l'université Bordeaux-Montaigne. Les étudiants et étudiantes se mobilisent pour dénoncer la politique de gestion des violences sexistes et sexuelles. De nombreuses assemblées générales ont été organisées pour faire remonter les revendications collectives sur ces questions. L'université a été bloquée une première fois du 25 au 26 mars. Puis environ 70 policiers étaient présents pour déloger une vingtaine d'étudiants et d'étudiantes, selon nos informations. Depuis le 9 avril, l'université a été bloquée de nouveau. Et hier s'est tenue une assemblée générale où était présent Lionel Larré, président de l'université. Il a été voté un certain nombre de choses, plusieurs revendications étudiantes ont été entendues et un accord a été signé avec la présidence. Et on reviendra dessus plus en détail durant l'émission. L'arrêt de l'occupation a été voté et le 19 avril, les lieux devraient être évacués. Les cours devraient reprendre progressivement à partir de la semaine du 29 avril. Après plusieurs mois, ces mobilisations ont mis en lumière une prise de parole qui émerge, des rapports de domination qui se renversent et des réponses institutionnelles qu'il faudrait améliorer. Et aujourd'hui, pour faire un tour du sujet, on est en présence d'étudiantes. Margot, étudiante en archéo, bonjour.
Bonjour.
Et Emma, étudiante en cinéma, bonjour.
Bonjour.
Les noms que je viens de donner, ce sont des pseudos. Vous avez demandé à ce qu'on vous les donne pour que votre identité ne soit pas dévoilée, parce que vous avez peur de certaines représailles, notamment de procédures en diffamation, comme c'est généralement le cas dans ce genre d'affaires. Et on est au téléphone avec Gaëlle Berton. Bonjour Gaëlle.
Bonjour.
Tu es secrétaire générale de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur.
C'est exact.
Alors Gaëlle, votre asso, elle est née en 2019, la même année que Sciences Sport, un mouvement de dénonciation des violences sexistes et sexuelles à Sciences Po. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enseignement supérieur concernant les VSS pendant cette période ?
Alors pendant cette période, il y a eu une grande vague de témoignages d'étudiantes victimes de violences au sein notamment des IEP et Sciences Po Paris, qui a eu un grand écho médiatique et qui a permis justement de mettre en lumière le manque de prise en charge et de prise en compte de ces violences par les établissements d'enseignement supérieur.
Très bien. Alors donc pour étudier l'ampleur un petit peu de ces violences, vous avez créé un baromètre et cette année là, c'est les 1 an du baromètre. Où est-ce qu'on en est
Alors, effectivement, on a créé un baromètre pour avoir des chiffres et pouvoir véritablement s'appuyer sur des données tangibles pour pouvoir au mieux ensuite lutter contre ces violences. Un an après les chiffres du baromètre, on peut dire que malheureusement, les violences graves et systémiques perdurent dans les établissements. Là, en l'occurrence, à Bordeaux-Montaigne, on voit aussi pas mal de choses qu'on a pu identifier dans le rapport sur des dysfonctionnements dans les établissements. Et donc, pour rappel, en termes de chiffres, 6 étudiants et étudiantes sur 10 déclarent avoir été victimes ou témoins d'au moins une violence sexiste, sexuelle ou LGBTQA+phobe. Des chiffres qui sont quand même alarmants et qui ne diminuent pas. Et puis, il y a un manque encore de reconnaissance et de connaissance de ces violences au sein des établissements.
Merci Gaëlle. Parmi les affaires de violences sexistes et sexuelles à la fac, 2 professeurs sont accusés. Un professeur de philosophie et ancien vice-président est accusé de viol par une de ses collègues, Barbara Stiegler, elle aussi maîtresse de conférences en philosophie. Et une dizaine d'étudiantes ont aussi dénoncé le comportement de ce même professeur. L'une d'elles rapporte dans Sud-Ouest que ce professeur l'accueillait chez lui, je cite, « intégralement nu ». Une autre affaire, cette fois-ci dans le département d'archéologie, concernant un professeur et qui secoue l'université. Un professeur d'archéologie serait accusé de harcèlement et de propos sexistes, notamment sur les chantiers de fouilles, où la proximité peut être exacerbée, pouvant créer un terrain propice à des comportements inappropriés. Et également d'autres faits peut-être aussi qui ont émergé durant les mobilisations grâce à une prise de parole et une force collective en cinéma peut-être notamment. Est-ce que tu veux nous en parler Emma ?
En vrai en cinéma pour le moment on n'a pas beaucoup d'éléments, enfin on n'a que des rumeurs ou des histoires racontées par d'autres étudiants, étudiantes ou anciens étudiants, étudiantes. Donc, on n'a pas concrètement des accusations à porter, mais on essaie de construire un dossier pour justement pouvoir, à la limite, faire remonter les comportements douteux, quoi.
Et est-ce que vous voulez revenir un petit peu sur les faits que je viens de citer concernant les 2 professeurs accusés ? Margot, peut-être ?
Oui, c'est les 2 histoires qu'on a sur lesquelles on peut vraiment parler, où on n'est pas sur des rumeurs, on a des faits concrets parce que on y est depuis longtemps et que on a pu travailler avec des associations, etc. Et les victimes ont pu être pris en charge, demander l'aide d'associations comme Clash et comme le planning familial. Donc c'est les 2 affaires sur lesquelles on peut vraiment parler ici. C'est en archéologie, c'est un maître de conférence qui a été suspendu en décembre 2023. Et qui a été relaxé à la fin de l'année scolaire, quoi, qui devait revenir à la rentrée 2023. Non, il a été suspendu du coup en décembre 2022. Il devait revenir à la rentrée 2023, je suis désolée. Et en fait, les étudiants archéologistes se sont mobilisés pour écrire un communiqué où ils expliquent qu'en fait, ils n'ont eu aucune information de l'université. On les a jamais invités à signaler. Il y a eu un certain nombre de signalements sur ce maître de conférence et on n'a jamais invité les... Ça n'a jamais été communiqué en fait aux étudiants et on les a jamais invités à. Il n'y a pas eu d'appel à témoignage quoi. Mm-hmm. Et on leur a pas expliqué leurs droits, etc. Donc voilà, il y a ce communiqué qui est sorti qui explique ça et qui a été fait tourner à différentes associations, syndicats, qui a été reçu par le planning familial et ça a fait écho à d'autres sollicitations d'étudiantes, mais cette fois en philosophie et par l'enseignante Barbara Stiegler qui avait aussi contacté le planning familial et le planning familial qui s'est porté partie civile. Pour Barbara Stiegler et pour ses étudiantes dans les procès. Quoi. Enfin,
Est-ce que il y a eu des réactions de la part des accusés concernant ces accusations? Comment ça s'est passé? Margot, vas-y.
Ouais, je peux parler pour l'archéologie. En fait, du coup, il devait revenir à la rentrée 2023, le maître de conférence. Il a été suspendu à nouveau parce que, bon, a priori, le président a... 4 jours avant la rentrée, en fait. Il s'est dit, non, finalement, on le resuspend quand même, histoire de peut-être faire patte blanche aussi, voyant, en fait, que ça pouvait porter préjudice quoi, à son image. Et en fait, donc, il a été resuspendu une deuxième fois, le maître de conférence en archéologie. Il a fait appel pour diffamation et il a gagné. Il faut savoir qu'il a été suspendu avec salaire et qu'il a fait appel pour diffamation, qu'il a gagné, qu'il a touché de l'argent. Voilà. Alors, et il a pu revenir après les vacances de la Toussaint.
C'était un recours, je crois, administratif qu'il a fait auprès du tribunal administratif pour contrer la suspension de l'université pour abus de pouvoir, il me semble.
Ah, merci de préciser. C'est ça parce que je dis... Ouais,
c'est,
ouais,
c'est un peu compliqué les termes juridiques. Alors Gaëlle, une question pour toi. Est-ce que ça arrive, est-ce que vous avez pu observer, est-ce que ça arrive souvent que des professeurs soient accusés?
Alors oui, ça arrive souvent. Quand on regarde dans le baromètre et qu'on s'intéresse au profil des auteurs de violences, on retrouve donc souvent les enseignants qui sont cités comme les plus cités par les victimes. Et donc, 2 chiffres peut-être, par exemple, dans les faits d'outrage sexiste, ils représentent 1/4 des auteurs. Et dans les faits de harcèlement sexuel, ils représentent 13% des auteurs qui sont cités. Donc il y a évidemment aussi la notion d'ascendant sur la victime et un rapport de domination entre les deux qui rend la violence encore plus grave. Et d'ailleurs, c'est la position, enfin, dans le contexte pénal, c'est la position du législateur qui considère que ce lien est une circonstance aggravante des faits. Mmh.
Alors justement, l'université Bordeaux-Montaigne vient de publier là récemment son bilan statistique de la cellule de signalement pour la période de septembre 2022 à septembre 2023. Pour cette période d'un an, il y a eu 38 signalements qui ont été faits à la cellule de veille, 24 concernant des affaires de violence sexiste et sexuelle, soit 63% des signalements, et 82% des mises en cause sont des hommes. Est-ce que ça rejoint des données que vous avez pu collecter, Gaëlle ?
Alors oui, ça rejoint effectivement les données qu'on a, c'est à peu près ça, hein. C'est plus de 80% qui sont des hommes et de manière plus générale, on a en tête le fait que même les violences sexistes et sexuelles, quand on dézoome sur le prisme national, sont commises en majorité à plus de 90% par des hommes également et quand bien même des hommes seraient victimes, c'est aussi par des hommes. Mmh.
Donc tu l'as dit, il y a des rapports de pouvoir et de domination qui s'exercent au sein de l'université et la hiérarchie, elle donne de nombreux leviers pour les mises en cause, pour exercer des pressions sur les étudiants et les étudiantes. Peut-être Margot ou Emma, est-ce que vous avez subi ce genre de pression? Est-ce que ça a été vécu par certaines personnes à l'université de la part des profs?
Dans ces affaires-là?
Oui, le fait d'avoir des affaires de violence sexiste et sexuelle par des profs, qu'est-ce que ça implique en termes de travail à la fac après?
Ben nous, c'est des petits milieux, je pense que ce soit pour le cinéma ou pour l'archéologie. Pour le cinéma, je pense que c'est assez public avec ce qui s'est passé pour les Césars et tout. Enfin, c'est un milieu, c'est des petits milieux où tout se fait au contact dans nos... Pour le travail, quoi. Tu vas avoir un stage, il faut avoir les contacts. Si tu connais machin, il va te conseiller auprès de ses collègues. Et en fait, tout fonctionne comme ça, un peu au contact. Et du coup, il faut se faire bien voir de nos profs, surtout quand c'est des gens qui sont reconnus dans le milieu, qui ont une certaine aura. Et bien sûr que quand on va sur les chantiers, nous c'est du coup pour les chantiers archéologiques, quand on va sur un chantier avec un professeur, on veut lui montrer, lui prouver aussi, et en espérant, voilà. Et il y a une forme d'admiration aussi, une forme d'admiration forcément.
Donc est-ce que peut-être certaines personnes qui ont dénoncé seraient désavantagées de l'avoir fait ?
Ah oui, il y a forcément des cas de... Ces profs-là vont être soutenus même dans le milieu. Enfin, on le voit. Je vais prendre Gérard Depardieu, quoi. Mais c'est pas forcément comparable. Mais il c'est une image, c'est quelqu'un. Il a été défendu même par le président de la République parce que c'est un icône de la France. Mais c'est pareil dans nos milieux, dans l'archéologie. Il y a des hommes qui sont, c'est des icônes, quoi, dans le milieu. Et c'est bon, c'est un milieu niche, mais c'est pareil. C'est ils sont ultra cités. On parle d'eux en cours. On lit leurs articles, forcément qu'il y a cette forme d'admiration et voilà ces questions-là.
Donc pour revenir un petit peu sur la manière dont ça a été géré par l'université et ce qui est largement dénoncé hein, à travers ces mobilisations étudiantes, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure Margot concernant le professeur d'archéologie, mais quand les victimes ont décidé d'interpeller l'université sur ces affaires, c'était quoi la réponse, comment ça s'est passé et c'était quoi la réponse de la part de l'université ?
Quand les victimes Margot. Ont...
Ouais, concernant les affaires de philosophie, d'archéologie, est-ce que vous avez contacté la fac et comment ça s'est passé, Margot ?
Oui, du coup, ce que les victimes souvent en fait témoignent, c'est qu'on leur a demandé de refaire leur témoignage de différentes manières, une première fois à l'oral, puis à l'écrit, et puis on les fait répéter, sur le principe que, sur le coup de l'émotion, on pourrait se tromper et mentir un peu, déformer les propos. Donc ça laisse toujours entendre à la victime que on la croit pas, quoi, qu'elle n'est pas crue, et qu'il faut toujours qu'elle se justifie, qu'elle se répète. Et puis derrière, une fois qu'elle a donné son témoignage dans plein de versions, de répéter son témoignage, pendant des mois, en fait, il n'y a pas de nouvelles, et c'est d'abord les bruits de couloir qui leur reviennent avant d'avoir un réel retour de la présidence, quoi. C'est ce qui revient souvent des témoignages des personnes qui ont pu signaler par la cellule, que ça soit des étudiants en archéologie, en philosophie ou en cinéma. Je pense que tu as eu ces témoignages aussi dans ta filière.
Tu peux nous en parler, Emma ?
Alors, j'ai pas toutes les informations, mais il y a une étudiante de L2 qui visiblement a été voir cette cellule de veille et qui avait vraiment été traumatisée par son expérience là-bas. Et après, elle a pas voulu nous en dire plus, ce qui est tout à fait compréhensible, mais voilà.
Donc, ok. Donc vous l'avez dit, parmi les dispositifs qui existent pour, comme premier dispositif pour dénoncer des affaires de VSS à l'université, il y a la cellule de veille. C'est un dispositif d'aide, d'écoute, d'accompagnement et de protection à destination des étudiants et des étudiantes, des personnels de l'université. Et elle est en charge, cette cellule, des questions de discrimination, de harcèlement et de violences sexistes et sexuelles. Mais finalement, c'est un dispositif qui est assez récent. Il date de 2018, où la loi a obligé à ce qu'il existe, mais son fonctionnement reste à la discrétion de l'université. Et gérer des cas de violence sexiste et sexuelle, ça ne s'improvise pas. Gaëlle, est-ce que vous avez étudié un petit peu le fonctionnement de ces cellules ? Est-ce qu'il y a des problématiques récurrentes au niveau national avec ces cellules de veille ?
Alors oui, déjà il faut comprendre qu'il y a différents types de cellules, c'est-à-dire que oui c'est obligatoire dans les établissements d'enseignement supérieur public, mais après il y en a plein de sortes et en fait c'est des établissements qui choisissent aussi en fonction de leurs moyens lesquels ils peuvent mettre en place. Donc il y a à la fois par exemple des cellules qui vont regrouper l'écoute et le signalement des violences, il y a celles qui vont séparer l'écoute et le signalement des violences en considérant qu'on peut écouter les violences sans forcément enclencher automatiquement un processus de signalement, et ça c'est ce que nous on recommande. Et puis il y a aussi les cellules qui vont faire appel à des associations ou entreprises externes à l'établissement et qui vont donc externaliser cette cellule de veille et d'écoute. Donc on voit déjà qu'il y a une diversité de cellules. Et ensuite, quand on regarde plus précisément les dysfonctionnements qui existent, c'est notamment le manque de formation des personnes qui vont être dans cette cellule. Souvent, malheureusement, il va y avoir des cellules fantômes, c'est-à-dire que les cellules existent sur le papier, sur le site internet, il y a une adresse mail, etc. Mais derrière, en fait, il n'y a personne qui suit, ou alors ce sont des personnes qui sont déjà en poste au sein de l'établissement, qui ont un métier à part entière et qui vont prendre ça, entre guillemets, bénévolement en plus de leur charge et ne peuvent donc, même avec ma meilleure volonté, répondre aux besoins des victimes et bien faire leur travail.
Alors, tu parlais d'écoute, enfin de dissocier les dispositifs d'écoute et de signalement. C'est quoi les enjeux de ça ?
Les enjeux, c'est aussi des enjeux de personnes qui vont donc à la fois entendre le signalement qui a été fait et ensuite devoir lancer une procédure administrative et faire une enquête. Et donc, c'est mieux, en tout cas pour en termes d'indépendance, d'avoir une dissociation entre les deux, c'est-à-dire avoir un espace pour que la victime puisse se faire écouter et aussi peut-être ne pas faire de signalement et préférer avoir un accompagnement psychologique, juridique, en tout cas lui laisser l'opportunité de choisir, et ça c'est super important pour les victimes. Et de l'autre, vraiment du signalement, où là il y a une volonté de lancer une procédure, même si malheureusement ça, la procédure disciplinaire n'est pas due, et c'est assez mal fait dans la loi, mais on pourra y revenir. Mmh.
Donc tu l'as dit aussi un petit peu tout à l'heure, Margot, c'est que certains étudiants et étudiantes victimes ont fait appel à des associations extérieures. Alors juste pour revenir avec toi un petit peu, Gaëlle, est-ce que c'est récurrent que des victimes fassent appel à des associations extérieures car la cellule de veille est inefficace ?
Oui, bah, ça arrive extrêmement souvent. Déjà parce que parfois même les cellules ne sont pas connues des étudiants et étudiantes. La communication est mal faite par l'établissement. Et donc forcément, les étudiants vont chercher des ressources locales pour les aider. Et de plus en plus, les associations locales ont par la force des choses une expertise pour accompagner ces victimes. Elles ont dû en tout cas l'acquérir parce que les établissements, en tout cas les cellules, sont défaillantes sur ce point. Et c'est important que l'établissement, du coup, travaille aussi avec ces associations locales pour voir quelles sont les problématiques et comment elles peuvent prendre à leur charge ces questions-là. Parce que ce n'est pas l'association qui est censée faire ce travail, c'est bien l'établissement d'assurer la sécurité des étudiants et étudiantes dans l'environnement d'études.
Donc tu nous en parlais tout à l'heure, Margot, mais vous avez pu être accompagnée par différentes associations, le planning familial de la Gironde, l'association Clash. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les raisons pour lesquelles vous avez fait appel à ces assos ?
Oui. Alors je ne sais pas exactement, il y a des... Dans quel cadre, au niveau on a constitué une inter-orga au début, sur un point de vue plutôt militant. Après, les victimes en elles-mêmes, elles les ont contactées d'elles-mêmes. Chaque victime va à son rythme et témoigne à son rythme et qu'on se fait aider par là où elle se sent à l'aise.
Parce qu'elles n'étaient pas accompagnées par la fac.
Donc moi, concrètement, quelle victime a contacté... Enfin voilà, je ne suis pas au courant de ça. Mais sur un point de vue vraiment, on va dire, plus militant, on a constitué une inter-orga à la rentrée de septembre, où on a fait appel à différentes associations. Là, on mentionne surtout Clash et le planning familial, parce que c'est celles qui sont le plus enclin Clash sur le point de vue plutôt juridique, à nous faire nous vulgariser en fait, et à nous expliquer qu'est-ce qui se passe, quelles sont les différentes instances et quels sont nos droits en fait. Et le planning familial, qui est une cellule d'écoute aussi. Du coup, nous, on va renvoyer en fait, on fait beaucoup de pub pour ces deux associations, parce que c'est vers elles qu'on conseille les victimes de se renseigner et de témoigner, quoi. Mais on a travaillé avec d'autres associations. En archéologie, on travaille avec Pays Tatruel, qui est une association interne à l'archéologie, une sorte de MeToo, en fait, dans l'archéologie, que nous, on a contacté, qui a signé le communiqué pour l'archéologie. C'est nous toutes aussi, 33. C'est des syndicats étudiants, des organisations du Pain et des Roses, des associations... voilà.
Et donc, Gaëlle nous parlait du manque de communication aussi sur l'existence de cette cellule de veille. Comment vous avez été au courant, vous, de l'existence de ces cellules ?
Moi, j'en ai été au courant parce qu'il y a eu la mobilisation, honnêtement.
Et toi, Margot?
Oui, moi, c'est pareil. Hein. Je l'ai su en allant nager et en me renseignant sur tout ça, mais sinon, je ne savais pas.
Généralement, il n'y a aucune communication qui est faite dessus. Sur le site de la fac, je crois qu'il y a un onglet qui a été rajouté récemment.
Oui, c'est ça. Quand on s'est mobilisé au début de l'année, les premières revendications qu'on a portées et qui ont été acceptées, c'est d'avoir une page web qui nous renseigne sur l'existence de la cellule de veille et qui soit en forme, quoi. Et une autre chose, c'est vous avez cité le bilan statistique qui est publié par l'université. Ça, c'est un droit légal. Il y a une charte, en fait, qui régule les cellules de veille, que du coup, des personnes qui militent avec nous du comité de mobilisation, quoi, se sont fait le plaisir de lire ces 70 à 80 pages, je crois. Et en fait, on a vu à l'intérieur que ce bilan, il était obligatoire. Et nous, à Montaigne, il n'y avait pas ce bilan qui était publié. Apparemment, il était lu dans des dits en réunion, mais dans des réunions, il n'y a pas d'élus étudiants, quoi. Mais il n'était pas public, il n'était pas sur Internet. Et donc, ça, la présidence, par notre mobilisation, dès les premiers mois de l'année, c'est les deux revendications qu'on a réussi à avoir dans les premiers mois de la mobilisation, qui publie ce bilan.
Alors que l'université, globalement, dit qu'elle fait tout ce qu'elle peut et qu'elle fait les choses, qu'elle ne peut rien faire de plus. Mais ça montre que, par exemple, elle n'avait pas respecté ses obligations légales. Ça a été comme ça pour un petit peu toute la mobilisation. C'était quoi vos revendications précises concernant les mobilisations?
C'est d'avoir... En fait, nous, on dit que cette cellule, elle est défaillante, et ça reprend ce que disait Gaëlle de l'Observatoire des VSS, parce qu'elle est nommée par le président lui-même, et elle est apparemment, on a appris qu'elle était validée à l'intérieur d'un conseil. C'est un conseil dont on n'avait jamais entendu parler, mais parce qu'il n'y a pas d'élus étudiants au sein de ce conseil, donc apparemment, voilà. En tout cas, elle n'a jamais été validée en conseil d'administration, et elle est, en fait, c'est que des membres de la présidence, ou alors du corps administratif de l'université, c'est pas des gens qui sont formés et c'est des proches en fait du président. Et en fait, ça a posé un problème de conflit d'intérêts, notamment dans l'affaire de philosophie, où là, c'est un ancien vice-président de l'université qui est accusé et qui, du coup, a été protégé par une cellule qui était composée d'amis à lui, en fait. Voilà. Et donc, ça, notre première revendication, c'est d'avoir une cellule qui soit indépendante de l'université, de la présidence de l'université, qui ait des étudiants élus. Référents, quoi, pour qu'il y ait une vraie transparence avec les étudiants, de A à Z, et des moyens alloués, et vraiment une cellule qui se donne les moyens financiers d'avoir du personnel juridique formé pour accompagner les victimes sur leurs droits et les accompagner juridiquement, et aussi du personnel de santé qui est formé pour les accompagner, parce qu'actuellement on a une étudiante pour 15 000 étudiants, et c'est tout. Voilà.
Et donc ça, c'est des revendications que vous avez obtenues hier suite à l'Assemblée Générale?
Alors, il y a quelques... Ce qu'on a obtenu, je peux le lister?
Ouais, vas-y.
Ok, on a obtenu un affichage permanent des protocoles avec de l'information, contact et email, une formation à l'accompagnement pour les étudiants, pour la réception et prise en charge des signalements, l'embauche d'un psychologue, si possible, en association avec les différents pôles universitaires bordelais, si possible, voilà. L'indépendance de la cellule serait garantie par le président. Donc, l'indépendance de la cellule dépendrait du président lui-même, mais bon, voilà. La cellule va être revue dans sa constitution. Il n'y aura qu'une personnalité issue de la présidence dans cette cellule, référente égalité et discrimination. Il y aura une consultation des étudiants pour la constitution de cette cellule en amont du CSAE. Donc, c'est ça, le CSAE, c'est cette réunion dont on connaissait pas l'existence, où il n'y a pas d'élus étudiants en fait à l'intérieur. Et la consultation des étudiants ne sera pas limitée aux seuls syndicats étudiants, mais aussi aux associations et collectifs violences sexistes et sexuelles qui nommeront des référents. Principe de non-mixité à la demande pour les témoins, pour les procédures en VSS, donc le choix de choisir entre un homme ou une femme pour être suivi, je crois. Possibilité d'accompagnement d'une victime pour déposer une plainte. Amélioration d'informations par le site web. Incorporation du sujet des violences sexistes et sexuelles à l'écrit et à l'oral lors des journées de rentrée. Formation violences sexistes et sexuelles pour tout le personnel de l'université. Cette formation sera obligatoire. Et la question de la remontée des signalements va être étudiée avec les étudiants. C'est un papier, en fait, c'est des revendications que le président actuel a signées en échange de la protection des bloqueurs. Parce que comme il a appelé une première fois la police. Forcément, les personnes qui bloquent l'université sont extrêmement fatiguées là actuellement après une semaine de blocage et ont peur que ça soit pour les cours parce que les cours se sont arrêtés mais étaient en distanciel et on est sur les dernières semaines là. Et aussi la pression de la police. Et donc, il y a cet accord qui a été signé entre les bloqueurs, les bloqueuses, quoi, et le président sur une clause de « je vous protège ». On se dit « ok, je vous laisse bloquer jusqu'à samedi matin ». Et en échange, voilà, je signe ça. Mmh. Et donc, il y a ça qui est passé. Il faut savoir que le président, il a été... il y a eu des élections à la présidence, là, en mars. Et il va être réélu, en fait, ça va se jouer en mai. Et donc peut-être que l'année prochaine on aura un nouveau président et du coup qui a rien signé lui donc donc voilà, ça met pas fin à notre mobilisation, mais c'est déjà une victoire en vrai, c'est déjà une grosse victoire parce que en octobre on allait en conseil d'administration, on nous refusait même le sujet en réunion quoi, et là enfin le président est prêt à déjà à parler d'indépendance de la cellule quoi, il est quand même revenu là-dessus jusque là et c'est notre revendication principale, il commence à répondre à ça. Et voilà, alors qu'on nous disait en octobre que c'était pas possible, que ça mettait à mal les procédures, finalement, bizarrement, in fine, là, en mars, finalement, c'est peut-être possible. Donc, c'est déjà une grosse victoire et on est très content de cette assemblée d'hier.
Et est-ce que vous pensez que c'est lié aussi au fait que le blocage ait exercé une pression sur la présidence, sur l'université ? Emma ?
Bah oui, moi, je pense clairement que grâce au blocage, il y a vachement de monde qui est venu en AG. On a fait des AG à plus de 400. Donc les étudiants et étudiantes étaient plus au courant et ça a plus bougé. On a organisé plein d'activités sur la fac. Donc oui, je pense que la présidence a, je sais pas si a eu peur, mais en tout cas a vu qu'on était là et qu'on avait des choses à dire, quoi.
Donc on vient de faire un petit peu un tour des dysfonctionnements de la cellule de veille, donc qui sert au recueil de la parole. Il y a d'autres dysfonctionnements aussi à pointer du côté des sanctions émises. Quand une université reçoit des signalements, elle peut déclencher une procédure interne et faire passer l'affaire en commission disciplinaire qui statuera sur les sanctions. Les deux professeurs accusés en philosophie et en archéo, ils sont tous les deux passés en commission disciplinaire. Est-ce que vous connaissez les verdicts de ces commissions, Margot ?
Non. Enfin, j'ai aucun...
Le professeur d'archéo, il n'a pas été relaxé
Il avait été relaxé, mais le dossier encore ouvert, pardon. Le dossier encore ouvert.
En interne à l'université ou au pénal ? Est-ce qu'il y a quelque chose au pénal ?
Non, au pénal, il n'y a rien.
Ok. Très bien. Donc Gaëlle, votre observatoire, il a adressé plusieurs préconisations au gouvernement et aux établissements pour mener des politiques efficaces de lutte contre les VSS. Et parmi les préconisations de l'observatoire, il est question de rendre les procédures disciplinaires plus efficaces et respectueuses des victimes de violences sexistes et sexuelles et de LGBTQIA+ phobie. Pourquoi on doit les rendre plus respectueuses ? C'est quoi l'état de ces commissions disciplinaires ?
Alors, pour le coup, l'état est assez dramatique dans la mesure où les procédures disciplinaires n'ont jamais été pensées pour des cas en fait, de violences sexistes et sexuelles. Donc, on utilise des motifs au sein de l'établissement qui ne sont pas en tout cas adaptés. Ce qui fait qu'on se retrouve notamment avec des procédures disciplinaires où la victime a une place de témoin dans l'affaire et non de victime, puisque c'est l'établissement contre la personne mise en cause. Donc ça, c'est ce qui est prévu en fait par la loi. Et donc, il faut absolument le changer parce que ça donne lieu à une grosse problématique. La victime n'a pas accès aux pièces du dossier, ne peut pas suivre l'avancée de l'enquête. Et donc, par exemple, un autre truc qui va créer un plus gros déséquilibre encore, c'est le fait que la personne mise en cause, elle, à l'inverse, a accès à toutes les pièces du dossier. Et quand il y a une procédure pénale en parallèle, va pouvoir se servir de toutes les pièces récoltées au sein de la procédure disciplinaire pour construire sa défense au pénal. Donc, on voit qu'il y a aussi des immixtions entre les deux. Donc, il faut rappeler qu'il y a une indépendance entre les procédures pénales et disciplinaires. Et les établissements aiment bien se cacher derrière les procédures pénales en disant « oui, ben, on va attendre que la décision soit rendue au pénal ». Sauf que ce qu'elles ne comprennent pas, c'est déjà que le pénal prend du temps, plusieurs années, alors que le temps universitaire n'a pas ce temps-là et qu'il faut une réaction immédiate. Donc le but d'une procédure disciplinaire, c'est de sanctionner les faits, alors que la procédure pénale, c'est de condamner des infractions, délits ou crimes. Donc ce n'a pas du tout le même objectif et ils ne peuvent pas s'appuyer et se reposer sur ça. Donc voilà, en termes d'autres dysfonctionnements, on a toutes ces questions d'opacité, de personnel non formé qui va donc avoir des propos culpabilisants auprès de la victime, qui vont aussi ne pas comprendre leur rôle au sein de cette commission disciplinaire. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là pour sanctionner des faits de violence sexiste et sexuelle, puisqu'ils ne voient que par le prisme pénal. Et puis aussi le fait que la victime ne peut pas faire appel de la décision disciplinaire, puisqu'elle n'a pas sa place dans la procédure en tant que victime. Et donc voilà, il y a plein de points comme ça qui dysfonctionnent et qui font qu'il faut absolument assurer aux victimes une meilleure procédure disciplinaire, ne serait-ce que pour déjà enrayer cette impunité des auteurs de violences, mais aussi pour pouvoir assurer à la communauté étudiante un environnement où ils peuvent étudier sereinement. Mmh.
Donc dans ces deux affaires de professeurs accusés à l'université, les professeurs ont été suspendus de manière temporaire. Et il y a plusieurs étudiants et étudiantes qui dénoncent le caractère temporaire de cette suspension. Même si l'université dit avoir suspendu les professeurs le maximum possible, c'est-à-dire un an, il est toujours questionnant qu'un professeur mis en examen pour viol puisse retrouver son poste dans l'université que fréquentent ses accusatrices. Et donc, tu l'as dit, Gaëlle, les procédures internes à l'université, elles sont totalement indépendantes de procédures pénales. Donc pour le prof de philo et d'archéo, la présidence a opté pour des mesures dites suspensives, c'est-à-dire écarter de manière provisoire un enseignant dans l'attente et l'issue d'une procédure disciplinaire ou de poursuites pénales engagées à son encontre. Et donc on l'a pointé, l'université elle s'en remet donc à la justice pénale qui on le sait est défaillante en matière de condamnation des VSS où 80% des viols sont classés sans suite et seulement 1% aboutissent à des condamnations pénales selon des chiffres du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et concernant les sections disciplinaires, tu l'as dit Gaëlle, chargées de se prononcer sur les procédures disciplinaires, elles sont composées d'enseignants et d'enseignantes volontaires qui n'ont pour ces missions aucun temps dédié et n'ont également pas de formation au droit disciplinaire et aux violences sexistes et sexuelles et peuvent donc être, comme tu l'as dit, culpabilisantes. À l'université Bordeaux-Montaigne, la cellule elle est composée de 10 membres issus du conseil académique. Et donc tout ça pour dire que la suspension, elle repose sur ces deux leviers, en partie insuffisants. Ça pose la question de est-ce que l'université, elle est en mesure d'affirmer que les faits, même s'ils n'ont pas été reconnus juridiquement, n'ont pas eu lieu. Comment, Gaëlle, l'université pourrait aller plus loin malgré le fait que les deux professeurs n'aient pas été condamnés ni en sanction, en commission disciplinaire, ni au pénal?
Alors, le problème, c'est qu'effectivement, quand il n'y a ni de sanctions au niveau disciplinaire, ni de sanctions au niveau pénal, il n'y a pas de levier d'action, mis à part, par exemple, le fait, des fois, de ne pas reconduire certains contrats quand ils sont dans le cadre de contrats. Mais donc, sinon, on est coincé. C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir des meilleures formations et un changement, aussi une modification au niveau législatif, que nous, on pousse depuis des années déjà avec d'autres associations sur la procédure disciplinaire pour que, justement, ces sanctions soient prises et qu'on n'arrive pas à cette situation où, en fait, on ne peut rien faire et le professeur reste et continue potentiellement aussi de perpétrer des violences. Et d'ailleurs, on l'a vu aussi dans d'autres cas, le fait de transférer, que ce soit des étudiants ou des professeurs auteurs de violences dans d'autres établissements, ce n'est pas du tout une solution puisque la personne va, de toute façon, potentiellement recommettre des violences dans d'autres établissements. Donc il y a des mécanismes en tout cas beaucoup plus forts de garantie aussi qui doivent être pris. Nous, ce qu'on demande, c'est bien évidemment quand la procédure disciplinaire n'est pas encore enclenchée, de mettre en place donc les mesures conservatoires et qu'elles soient fortes et qu'elles permettent vraiment de protéger la victime. Il faut absolument que la présidence de l'université se saisisse de ces questions. Donc là, c'est l'occasion. Et avec les pressions médiatiques, c'est comme ça d'ailleurs que c'est le dernier recours pour que les établissements réagissent et mettre en place des choses. Après, il faut que ce soit durable. C'est ça la problématique. Souvent, ça retombe quelques temps après et les établissements ne mettent pas tout en place. Donc, en tout cas, il ne faut pas les lâcher sur ça. Il faut que la gouvernance ait un devoir d'exemplarité qui n'est pour le moment pas assuré avec cette actuelle vice-présidence. Et donc, les nouvelles élections doivent être aussi l'occasion pour les candidats de démontrer leur intérêt et leur engagement dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et maintenant, ce n'est plus possible de s'y soustraire dans la mesure où l'ensemble des établissements ont quand même, doivent avancer sur ce sujet. Il y a une attente de toute l'opinion publique sur ça.
Est-ce que c'est des choses qui sont craintes par les étudiants et les étudiantes de Montaigne que ces professeurs reviennent? Alors pour le professeur d'archéo, il est déjà revenu en cours, mais pour le professeur de philosophie, il a été suspendu à partir du 1er février et donc il devrait revenir un an plus tard. C'est des craintes ça, Margot?
Je peux commencer par l'archéologie parce que c'est ce que je connais le mieux. Il est revenu, au début il a enchaîné les arrêts maladie. Où il estimait, son médecin estimait qu'il n'avait pas que ses procédures à son encontre avaient joué sur sa santé mentale et qu'il n'était pas apte à revenir. Donc, il a enchaîné les arrêts maladie, mais il est revenu il y a quelques mois là et il a repris ses cours. C'est une ambiance qui est étrange en fait dans ses cours et c'est des questions. Enfin, c'est une insécurité permanente, quoi. Et on a reçu notamment un mail de la présidence, de la direction, quoi, qui nous menace, en fait. Si vous dites que votre prof est un violeur, vous savez que vous encourez 12 000 euros d'amende, quoi. Et ça, c'est un mail qu'on a reçu. On nous tient à la menace, quoi. Et on nous tient à la pression scolaire et on nous tient à la menace de l'amende pour diffamation. Donc voilà, on se réveille un matin, on reçoit une menace de la présidence d'une amende de 12 000 euros. Voilà. Et c'est comme dans ces conditions-là qu'il est revenu. Pour le professeur de philosophie, il était revenu une première fois, il me semble, et puis Madame Barbara Stiegler a été en droit de retrait, et du coup n'a pas pu donner cours pendant plusieurs mois, parce qu'elle ne pouvait pas venir à la fac où était présent son collègue. Quoi. Et pourtant, la présidence s'est permis de les convoquer à des réunions du département de philosophie, aux mêmes réunions, quoi. Donc il y avait vraiment toute impunité. Donc elle a pris son droit de retrait, elle n'a pas pu donner cours pendant de nombreux mois. Et donc les étudiants en philo se sont vus voir des cours annulés, quoi, avec leur prof qui n'est pas capable, la présidence n'est pas capable d'assurer sa sécurité sur la fac, et elle ne peut pas, donc pas venir en cours et donner cours. Donc ça, voilà. Et la question, elle va se poser. Pour l'instant, le professeur de philosophie, il est suspendu, mais c'est temporaire. Et bien sûr que l'année prochaine, nous, on va pas être très... On va être vigilants à son retour, voilà.
Et est-ce qu'il n'y a pas des modalités d'organisation aussi peut-être à demander à l'université, comme tu le dis, où Barbara Stiegler a exercé son droit de retrait, du coup, pour ne pas être confrontée à son agresseur présumé lors de réunions? Est-ce que c'est des choses qui sont demandées de la part des étudiants et des étudiantes?
Il y a des fois des demandes de changer de groupe de TD pour ne pas être en TD avec son agresseur. C'est des demandes qui sont faites au niveau de la cellule, mais comme il faut témoigner de différentes manières et qu'après pendant des mois on n'a pas de nouvelles, à voir si vraiment ça se met en place, quoi. Et puis ça demande aux victimes aussi, ça veut dire on va faire un cours à part avec les victimes, et puis c'est quand même des mesures qui sont, c'est difficilement entendable, quoi. Mais les seules choses, les seules réponses qu'on a, ça serait de les changer, de leur faire un TD à part, quoi.
Et donc, Gaëlle, tu l'as mentionné, je crois, mais quand une décision de la commission disciplinaire est rendue, l'université peut faire appel de cette décision. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça sert?
Oui, absolument. Donc, en fait, il y a plusieurs façons aussi de faire l'appel. C'est-à-dire que si c'est une procédure disciplinaire qui se passe entre un enseignant et une étudiante, l'appel va se faire au CNESER. Alors que quand c'est entre étudiants, l'appel va se faire au tribunal administratif. Et je dirais que c'est important de faire appel, même quand, par exemple, il y a des sanctions qui sont prises, qui sont fortes, quand souvent, du coup, la personne mise en cause, elle, va faire appel de la décision. Donc, il faudrait que l'établissement, systématiquement, pense à faire cet appel pour, justement, pouvoir défendre la sanction qui a été prise, ici, au CNESER, et que, ensuite, la sanction qui va être prise à la suite de cette deuxième commission soit au moins aussi importante, voire plus lourde. Et malheureusement, ce qu'on remarque, c'est qu'au Knesset, souvent, les décisions sont encore plus légères que ce qui a été pris dans le cadre de la sanction disciplinaire à l'échelle de l'établissement.
Alors donc concernant Montaigne, il me semble que l'université, tu me corriges si je me trompe Margot, que l'université a fait appel de la décision de la commission disciplinaire concernant le professeur d'archéologie. C'est pour ça que... Est-ce que... Oui ? Je sais pas. En tout cas, concernant la suspension du prof de philo, il était question de savoir si l'université allait faire appel de cette décision. Est-ce que vous avez des informations concernant ça, Margot?
Ok, nous on est en contact avec l'H notamment. Et le président de la fac et c'est la présidence globalement, il nous avait dit qu'il ne pouvait pas faire appel. Les étudiantes en philo, donc c'est dommage que l'étudiante en philo en fait soit pas là parce qu'elle devait venir et en fait avec la fatigue et tout elle a pas pu venir, donc je parle pour elle et j'espère que je me trompe pas, mais en gros la présidence leur avait dit qu'ils pouvaient pas faire appel. Elles ont contacté un avocat et elles ont contacté Clash qui leur ont dit si il peut faire appel, il vous ment. Mais par contre Clash leur a conseillé, leur a dit que c'était pas forcément une bonne idée qu'ils fassent appel et que ça pouvait même déboucher sur une décision qui soit pire quoi. Et du coup, elles n'ont pas non plus trop insisté.
Très bien. On a vu un petit peu ces deux leviers en matière de récolte et de condamnation des violences sexistes et sexuelles. Et maintenant, on va parler des conséquences aussi sur les victimes de ces violences à l'Université Bordeaux-Montaigne. Comment est-ce que ça a impacté les victimes, toutes ces affaires ?
Comment ça a impacté les victimes ?
Ouais. Est-ce qu'il y en a qui se rendaient plus en cours ? Est-ce qu'il y en a qui avaient peur de se rendre en cours ? Qu'est-ce que ça a provoqué ces affaires ?
Bien sûr, un sentiment d'insécurité et le fait de ne pas être cru. Et puis c'est pareil, que ce soit à Montaigne et puis dans toutes les autres facs. Je veux que je peux pas parler pour les victimes. Et c'est très difficile de répondre à ce genre de questions parce qu'on ne veut pas parler pour les victimes. Et on est même... On est même dans une... C'est difficile de militer sur les questions de violence sexuelle parce qu'on ne veut pas non plus imposer aux victimes de témoigner, de prendre la parole. Et il faut aller au rythme des victimes. Et on lance des appels à témoignages et ça peut prendre... On sait que ça peut prendre des années et c'est du temps dont les victimes ont besoin. Et nous, on veut pas aller plus vite qu'elles. Donc, c'est juste pour répondre. On nous pose souvent la question et nous, on peut pas vraiment répondre parce qu'on ne peut pas parler pour les victimes et je prendrai pas la parole pour les victimes. Mais globalement, c'est un sentiment d'insécurité qui est palpable et qui a amené à des assemblées générales à plus de 400 et même la dernière assemblée générale, on était plus de 600, plus de 700. Quoi. Enfin, voilà. Ça montre aussi que ça choque. Quoi.
Et Gaëlle, est-ce que vous, c'est des répercussions que vous avez étudiées, les conséquences de violences sexistes et sexuelles en milieu universitaire sur les victimes ?
Oui, totalement. Ça fait partie de toute une partie de notre enquête. Et pour le coup, les chiffres sont vraiment significatifs. Déjà, un peu plus de la moitié des étudiants et étudiantes ne se sentent pas vraiment en sécurité au sein de leur établissement. Donc c'est déjà un chiffre qui doit interpeller. Il y a 43% des étudiants et étudiantes qui trouvent que l'établissement ne fait pas assez pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et puis ensuite, les victimes de violences subissent de lourdes répercussions avec leur scolarité qui peut être mise en péril, des problèmes de santé conséquents, une isolation sociale. Et donc en termes de chiffres, c'est 32% des victimes de viol qui ont eu peur d'aller en cours ou de participer à la vie étudiante. Et qui ont eu des difficultés à s'impliquer dans leurs études, et 14% qui ont voulu ou ont changé d'établissement à la suite de violences sexuelles.
Très bien, et c'est la fin de notre émission bientôt. Merci à Emma, à Margot et à toi Gaëlle de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur. Merci à vous.
Merci. Their hands clean of bark and bite, so they can sleep deep at night. Ah. Oh my God.
girls like to fight. I wish I could throw the first punch, but purity coats my tongue. Oh, and I'm not gonna be the one to try. You like to make me suffer, thought we loved one another. Cause so all your old lovers around, be quiet, don't make a sound. Cause all your girls like to fight. I like to make you suffer, thought we loved one another. Cause so all my old lovers around, be quiet.
Il y a 14h sur la Clé des Ondes, ce sera Plateforme FM, la première émission consacrée à la Gironde, réalisée dans le cadre d'un tour de l'estuaire à vélo. À 15h, Bordeaux Blues,